Groupe Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée aux fanzines, en images par mois sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Morel pour parler de sa nouvelle BD Passe Misère, publiée par les Roca Marteau. En chronique, nous parlerons des trois BD aujourd'hui, Le bord du gouffre de Noah Van Siver, publié par l'employé du mois en août 2020, Au bois de Charline Colette, paru chez les Fourmis Rouges en octobre 2020, et nous terminerons avec une chronique d'horreur sur Flippette et Vénère de Lucrèce Andrea, publiée par les éditions Delcourt en février 2020. Mais commençons par l'interview. Bonsoir Pierre Morel, merci d'être avec nous ce soir sur Radio Campus Paris.
Bonsoir.
Alors, Pierre Morel, pourrez-vous nous raconter comment vous êtes arrivé à la bande dessinée ?
Alors, je ne sais pas vraiment comment j'y suis arrivé. J'y suis arrivé parce que, en fait, j'en lisais pas vraiment quand j'étais petit. C'est juste au collège où un pote lisait pas mal de BD, il m'en a prêté. Et je suis rentré comme ça là-dedans. Et après, j'ai pas vraiment arrêté de dessiner. Puis, au collège, au lycée, on se retrouve tous, les deux, trois gars qui aiment la BD, à traîner ensemble et à dessiner. Et puis, je sais qu'au lycée, on était deux dans ma classe comme ça. Et il y en a. Moi, j'ai fait de la BD. Lui, il a continué, il a fait du dessin animé. Voilà, quoi. On n'a jamais vraiment arrêté de dessiner, quoi. C'est tout. Et un jour, on se réveille et puis on fait de la BD.
Donc, vous avez commencé un peu à faire de la BD en écoutant les cours au lycée, c'est ça ?
C'était plutôt un truc qui me plaisait à côté des cours, quoi. Un cours, je ne faisais pas spécialement grand-chose. Mais c'est juste qu'on aimait bien dessiner, on aimait bien la BD. Et puis, il y a des gens pour qui c'était le cas aussi et qui ont arrêté. Tout en faisant autre chose, et nous on a continué, quoi. Je pense que c'est la même histoire un peu pour tout le monde, quoi. Après, j'ai pas fait d'école pour faire de la bande dessinée ou du dessin, quoi. J'ai juste le bac, moi. J'ai été 2 ans à la fac, mais j'ai vraiment rien fait d'intéressant, et voilà. Mais j'ai pas de formation, j'ai pas continué par une formation sur la BD ou sur le dessin, ou quoi. J'ai juste continué tout seul, quoi.
Et donc, effectivement, vous avez continué et vous avez publié votre première... Si je suis bien informée, peut-être que je me trompe, mais vous avez publié votre première BD en 1999 chez les Roca Marteau, Oural numéro 1. Pouvez-vous nous parler de cette première bande dessinée ? Comment vous êtes arrivé à cette publication ?
C'est pas un truc que je revendique vraiment, parce que c'est vraiment des trucs de jeunesse. En fait, je faisais des trucs dans la revue des requins, Ferraille, et puis dans une revue de 6 pieds sous terre, un magazine qui s'appelait Jade. Et eux, les requins, ils cherchaient à publier vraiment de tout, vraiment sans trop filtrer. C'était leur démarche un peu de les gens qui veulent faire un truc, ils peuvent le faire. Et du coup, je me suis retrouvé à faire ça. Après, c'est pas des trucs... C'est pas là où je sens que j'ai commencé, c'était encore du brouillon. Après, j'ai fait un bouquin chez 6 pieds sous terre qui s'appelait Buck, qui est un peu plus dans la veine de ce que j'ai continué à faire après, c'est-à-dire des histoires un peu plus longues avec divers personnages qui se croisent. Voilà, c'est à partir de là que ça s'est un peu défini, quoi. Mais tout ce qui est avant, c'était vraiment du tâtonnement, de l'essai, du brouillon. J'étais pas formé, on va dire, à ce que je voulais faire, quoi. Je tâtonnais, quoi.
C'était une œuvre de jeunesse.
Ouais, voilà.
Et donc, revenons sur votre travail actuel. Dans vos BD, vous parlez souvent de problèmes sociaux. La BD est pour vous un moyen de dénonciation de la société actuelle ?
Oui, en fait, c'est-à-dire que quitte à passer, ça prend super longtemps de faire un bouquin, ça prend souvent une année quasi, et quitte à passer autant de temps à faire quelque chose. Je me dis, je vais pas parler de dragons avec des elfes et des trucs comme ça parce que j'en ai un peu rien à foutre, et autant parler de quelque chose qui m'intéresse, quoi. Parce que tu passes quand même des heures et des heures et des heures et des heures à faire un truc, et il faut que soit une, que soit, que le sujet te tienne vissé à ta chaise, hein, sans que la lassitude arrive, quoi. Donc je préfère parler de choses qui m'intéressent et qui me font réagir plutôt que de pure fiction, divertissement, quoi. Voilà.
Et dans vos BD, la critique sociale donc oscille par contre souvent entre des situations drôles et des passages dramatiques. Comment vous êtes arrivé à trouver cet équilibre ? Et est-ce que vous avez trouvé ça dès vos premières BD ? Par exemple, dans votre BD 3 déclinaisons, je trouve qu'il y a quand même toujours apparu à l'employé du mois. Je trouve qu'il y a quand même un côté plus sombre, par exemple.
Ouais, ça c'est vrai. Bah, c'était dans les trucs qui datent un peu, ça. Et ouais, c'était un peu plus ambiance sérieuse, ambiance dark, mais enfin, pas rigolote, quoi, plutôt dramatique. Mais petit à petit, c'est venu aussi avec en progressant dans le dessin. Avec les trois derniers Michel, là, il y a un truc qui s'est un peu débloqué. J'ai arrêté de dessiner à la plume. Je dessine sur du papier photocopie avec des stylos feutres pas chers parce que j'ai pas envie de devoir dessiner sur tel beau papier qu'on trouve que dans tel magasin. Ah, mais ils en ont plus. Ah, comment je fais? Je veux m'éloigner de ça. Et pareil, la plume, c'était, je m'évertuais à dessiner à la plume, mais c'était la galère, ça va jamais, j'y arrivais pas, elle est trop neuve, elle est trop vieille, elle est trop tordue, elle est trop... Du coup, je suis passé au stylo feutre, et là, le dessin s'est un peu décoincé avec ces trois derniers Michel. Et du coup, ça allait beaucoup plus vite, ça a coulé tout seul un peu plus. Donc, je me rappelle plus de la question, je parle un peu tout seul, mais oui, le côté comédie, voilà, il vient aussi du plaisir qu'il y a à dessiner et du plaisir qu'il y a à faire... jouer les personnages comme des comédiens un peu, on va dire, mais voilà, de leur faire arriver des trucs où je suis plus à l'aise pour les dessiner dans des situations incongrues et variées que je l'étais à l'époque. Donc et voilà, la comédie, le côté comédie, c'est un peu un côté c'est un petit plaisir aussi de leur faire arriver des galères, quoi. Donc voilà.
Donc il y a effectivement un lien entre l'outil que vous utilisez pour dessiner et comment et ce que vous racontez. Donc il y a cette légèreté qui arrive à travers, peut-être aussi à travers l'outil.
Oui, c'est ça. Le fait que je galère plus avec le matériel, que c'est plus un poids dans ma tête. Je peux plus me concentrer sur ce que je veux raconter, parce que ça vient plus facilement, je vais plus vite aussi, donc ouais, c'est plus léger, quoi. Plus léger à faire. Après, le sujet n'est pas forcément plus léger, c'est la façon de raconter, quoi.
Et donc, je voudrais vous poser une question par rapport au travail actuellement d'un auteur des bandes dessinées en 2020. Mmh. Donc, vous êtes un auteur installé, vos livres sont été nommés plusieurs fois à Angoulême et compagnie, vous publiez des BD depuis 20 ans. Quelle est la réalité de votre métier aujourd'hui en 2020 ? Vous parlez souvent des précarités dont vous bandes dessinées. Quel est votre rapport au travail d'auteur aujourd'hui ?
Quand vous dites auteur installé, ben, depuis, ouais, peut-être je fais des BD depuis 20 ans, mais je ne suis pas installé du tout, parce que c'est tout le temps la galère, quoi. Et je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les gens de ma génération qui font de la BD un peu indé. J'ai des potes de je vais pas dire leur nom, mais qui galèrent aussi financièrement tout le temps, quoi. On est un peu la dernière roue du carrosse, quoi. Enfin voilà, on est les seuls dans la chaîne du livre à pas gagner notre vie, c'est tout.
Oui, moi je précise que je dis installé dans le sens que vous publiez pour des maisons d'édition connues, vous arrivez quand même à publier des livres et tout ça. Donc effectivement, je sais que c'est la grosse galère pour les auteurs de bande dessinée, mais je voulais dire installé juste dans ce sens-là. Je voulais pas.
D'accord.
Voilà.
Bah après ça, moi j'ai pas l'impression d'être installé, quoi. J'ai l'impression que ça patine un peu, le marché, enfin le marché, façon de parler, mais que c'est pas facile d'exister en librairie. Il y a eu un peu de presse pour Michel et tout, mais c'est pas non plus un gros succès, quoi. C'est un succès dans un petit cercle de gens, on va dire, quoi. Mais il y a tellement de bouquins qui sortent, il y a tellement chaque semaine que c'est très dur de passer au-dessus de la ligne de flottaison, quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est moi, j'ai pas l'impression d'être installé du tout, quoi.
Je comprends. Et passons maintenant, je voudrais parler donc de votre dernière bande dessinée, publiée par Leroy Marteau, Passe-Misère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette dernière bande dessinée, s'il vous plaît?
Alors ça c'est pas un travail de commande, mais c'est un travail que j'ai fait en résidence dans une petite ville qui s'appelle Coulounieix-Chamiers, qui est en banlieue de Périgueux. C'est une résidence qui est montée par la compagnie Ouidir, qui est la compagnie de Marc Pichelin, qui est aussi Roquin Marteau lui. Et c'est une compagnie de musique contemporaine, mais ils font une résidence sur un quartier. On va dire difficile, c'est pas tellement qu'il est difficile, c'est que c'est un quartier prioritaire, quoi, un quartier super pauvre. Et ils ont invité plein de musiciens, de dessinateurs à venir. C'est un truc qui se fait depuis 3 ans. Ils ont eu un logement attribué par les HLM, je crois, dans une barre qui va être détruite d'ici un an ou deux. Et du coup, ils font venir tous les mois des dessinateurs travailler sur le quartier. Et donc, il y a eu pas mal d'expos. Il y a eu une grosse expo de Laurent L'Olmède, de Placide. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis là-dessus. Ils font un journal aussi qui s'appelle Le Voltigeur. Et moi, mon truc, comme j'y allais régulièrement, une semaine de temps en temps, sur les 2 dernières années, on va dire, c'était de faire une fiction, de transposer tout ce que je vois dans le quartier dans une fiction pour que ça sorte un bouquin comme c'est sorti là, et que ça soit aussi lisible par les gens qui savent pas que c'est une résidence, qui savent pas que ce qui se passe là-bas, que ce soit lisible par tout le monde, quoi. Donc, j'ai un peu pris comme point de départ un film de Stevenin qui s'appelle Passe-Montagne, où c'est un gars qui tombe en panne dans le Jura, je crois. Et il est recueilli par le garagiste les quelques jours qu'il va mettre à réparer sa voiture. Et pendant ces quelques jours, il va errer avec le garagiste dans des petits coins des Vosges, des espèces de déambulations comme ça, dans des endroits improbables. Ben, j'ai transposé ce truc à Chamiers, sur la petite ville de la résidence.
Dal giorno in cui sei nato tu, la vita è musica e fantasia. Hai dato un volto alla vita mia, ed ora è tua. Il mondo è musica e fantasia, questo è importante, il resto è una bugia. Che si racconta chi non ha ironia in vita sua. la vita è musica e fantasia. Tienilo a mente, non ti perderai. Vedrai crescendo, lo capirai, lo capirai. La vita è musica e fantasia, ma se ti perderai, che vuoi che sia, basterà viverla con ironia, basterà viverla. Sei grande ormai, tra un mondo diventerai quello che vuoi. Per me tu sei tutto, per me tu sei, tu sei. Tu sei musica, tu sei fantasia, tu tutto sei. E i tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e dentro al cuore ho un amore vero, grande più del cielo. I tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e nel cuore giorno in cui sei nato tu.
La soirée dal giorno in cui sei nato dell'artista Andrea Slazzo de Simone. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Morel.
Oui, donc j'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit au début, répondre à ma question, donc sur le dispositif Vagabondage 932. Donc j'ai regardé, j'ai un peu fouillé sur internet. Et si j'ai bien compris, c'est une résidence différente des résidences habituelles. Et j'ai lu que les artistes peuvent venir le temps qu'ils souhaitent, sur plusieurs mois, plusieurs années, qu'ils n'ont rien demandé, ce n'est pas d'être là, de vivre là, de regarder, d'observer, de se promener.
C'est ça.
C'est bien loin d'une optique marchande où une résidence doit donner quelque chose. Et après, j'ai vu des photos magnifiques. Donc effectivement, on retrouve les paysages qu'on voit dans Passe-Misère. J'ai vu que là-bas, vous aimez bien manger des sardines. Et donc, effectivement, j'ai vu que donc, tout ce que vous faites, les expositions, c'est assez incroyable ce que vous arrivez à faire aussi au niveau de la... avec, donc, dans cette barre d'HLM, c'est magnifique. Ça donne envie d'y aller.
Oui, ouais, mais c'est très chouette parce qu'il y a une super ambiance. Et en fait, voilà, ils ont décidé de ne pas demander de résultats. Les gens, ils viennent. Ils font ce qu'ils veulent, ce qui fait que moi, les premières fois où j'y suis allé, je voyais ce que faisaient les autres, des croquis dans la rue, tout ça. J'étais, ah, ça me foutait la pression, il faut que je fasse un truc. Et j'ai pas eu l'idée de suite de faire une fiction. J'ai patiné les deux, trois premières fois où j'y suis allé, et après, c'est venu. Et voilà, il n'y a pas forcément l'obligation de faire un objet non plus, un livre ou un truc qui va être diffusé. Chacun fait ce qu'il veut, il y a vraiment. Ça tourne pas mal autour des expos, il y a des petits concerts. Par exemple, ils leur ont été attribués en dessous des HLM où il y a ce logement, hein, il y a des jardins ouvriers qui étaient avant des jardins ouvriers de la SNCF, qui maintenant sont attribués à des gens du quartier. Et il a été attribué à la résidence un jardin ouvrier où il y a un gars qui fait plutôt du land art, Joël Tepo, il y avait une cabane dans ce jardin, il a complètement refait la cabane, c'est devenu un lieu, une espèce de guinguette, un lieu d'expo, où on fait justement des grillades, des trucs comme ça, où il y a des apéros où tous les gens du quartier viennent. Ils font aussi des apéros murettes, qui est en bas, sur la murette, en bas de la barre d'immeuble, des apéros avec ou un concert ou une expo placardée sur les murs vite fait, comme ça. Enfin, c'est vraiment un mode guérilla artistique. ça part dans tous les sens, quoi.
Ah ben c'est super chouette. Donc effectivement, on retrouve les jardins ouvriers qu'on trouve dans Passe-Misère, c'est les jardins 62. Et après, je me suis donc promenée un peu de la ville avec Google Maps. Et donc l'industrie Choco Black, c'est l'industrie Eurovia.
C'est ça. C'est un truc en fait qui fait du goudron ou un truc à base de pétrole, du goudron pour les routes hein, ou quelque chose comme ça, qui est à côté des jardins ouvriers. Et selon d'où vient le vent, des fois ça pue le pétrole dans toute la ville. C'est un truc planté là au milieu. Je crois que c'est classé Céveso. Et c'est vraiment un truc qui. Il y a des jours où le vent vient vers ici, tu sens que ça pue le pétrole partout. C'est assez désagréable. Et pareil, en dessous des jardins ouvriers, il y a de l'autre côté de la voie ferrée, il y a un Emmaüs qu'on retrouve dans la BD aussi. Voilà.
Ah oui, c'est vrai. Oui, en plus, je l'ai vu hier, mais j'ai pas tilté avec la BD, j'avais oublié, histoire de la chemise. Mais donc, pour revenir à cette BD, donc Georges, un agent commercial, à l'occasion d'une panne des voitures, prend le temps de rien faire pendant quelques jours, de se promener dans ses petits villages. Et dans ces 3 jours, il semble sortir un peu d'une vie normale et de s'offrir quelques jours de repos volé. Quel est votre rapport à vous à cette société dans laquelle on vit, on est toujours obligé d'être dans une forme de productivisme. Est-ce que cette BD, c'est un peu une ode à la paresse pour vous ?
Ben, c'est... Alors moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne sais pas faire. Mais c'est juste que vous dites, le personnage s'offre... Pardon. Quelques jours comme ça, mais non, c'est qu'il est obligé, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est coincé là, donc il va y arriver ce qu'il y arrive, malgré lui. Après, vis-à-vis de la société de consommation, tout ça, moi, mon truc, c'est que je consomme pas, quoi. Donc, mais après, quand je dis je peux pas rester sans rien faire, c'est pas produire des trucs pour produire des trucs, c'est juste si je... Pardon. Si je suis chez moi et que j'ai rien à faire, ben je vais bosser, je vais dessiner, quoi. Mais je vais pas. Voilà. Après mon rapport vis-à-vis de la société de consommation, ben c'est de pas consommer. Le truc du libéralisme, c'est la libre concurrence, d'avoir le choix d'aller ailleurs. Mais on a aussi le choix de pas y aller du tout, quoi. Donc voilà.
Et donc, dans cette BD, vous êtes, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes parti, vous êtes inspiré librement du film Les Passe-Montagnes, de Jean-François Stévenon. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez eu envie de reprendre cette histoire ? Et après, je trouvais que la ressemblance entre les personnages, entre Georges et Serge, est quand même impressionnante.
Ouais, ben oui, c'est un peu très inspiré de ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce film. En fait, j'étais tombé dessus à la télé il y a très longtemps. Il y a une vingtaine d'années, un soir sur Arte, je crois. Et ça m'avait vachement marqué. C'était inattendu comme film. Je ne m'attendais pas à voir ça. C'est un film qui fait un peu improvisé. Il n'y a pas vraiment une fin qui résout tout, enfin qui conclut le truc. Il y a des drôles d'ambiance. Et je l'ai revu il y a 2-3 ans, ce film. Et c'est un peu... C'est un peu plus dur à regarder que ce que je pensais, en fait. C'est un peu plus... ça tient un peu moins la route que le souvenir que j'en avais. Mais ça reste quand même un chouette film, un peu libre comme ça. Et pourquoi j'ai pris ça ? Parce qu'il me fallait un prétexte de quelqu'un qui se retrouve coincé à Chamiers et ce film m'est revenu en tête, parce que c'est quelqu'un qui se retrouve coincé malgré lui dans un coin où il n'a pas choisi d'être. Et donc voilà, j'ai transposé, quoi.
Et là, j'aimerais parler d'une série que vous avez écrite, Michel. Donc, Les Derniers Michel et les Grands Schismes est sorti en 2019, publié par des éditions de L'Employé du Mois. J'ai lu les trois derniers, mais bon, il y en a en réalité déjà un publié en 2006, un premier Michel. Nous avons déjà parlé dans notre émission de cette série, nous avons adoré. Pourrez-vous nous raconter comment est né ce personnage de Michel?
Alors, le Michel, là, j'en ai fait trois en 3 ans, coup sur coup, et il y en aura un quatrième l'an prochain. Et j'en avais fait un, en fait, il y a une douzaine d'années. C'était un tout petit bouquin, mon premier bouquin à l'employé du mois, d'une trentaine de pages. Et c'est l'histoire d'un reporter radio qui galère et qui fait de l'intérim à côté, qui n'arrive pas à vivre de ses reportages. Et c'était pour parler un peu, en fait, c'était pour parler un peu de ce que c'est d'essayer de vivre de la BD, mais sans parler d'un auteur de BD. Donc j'avais transposé sur un personnage qui fait de la radio. Parce qu'à l'époque, moi aussi, je faisais de l'intérim, je faisais tous les petits boulots à la con. Et j'arrivais pas à gagner ma vie par la BD. Et du coup, voilà, j'avais fait ce petit bouquin. Et 12 ans plus tard, je me suis dit, hop, j'ai envie de faire des trucs un peu plus légers, tout ça. Et j'ai redessiné ce perso et je suis parti là-dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Surtout que le dessin a beaucoup évolué, j'espère. et que j'étais plus à l'aise, ce que je disais tout à l'heure. Donc, les trois premiers là que j'ai fait fonctionnaient par les trois récents fonctionnent par petites histoires de 2 à 8 pages, on va dire, qui sont indépendantes mais qui dans le bouquin lu à la suite l'une de l'autre forment une plus grande histoire. Donc je pouvais bosser par petites séquences comme ça, c'était assez pratique. C'est le prochain que je fais pour la prochaine sera une seule longue histoire d'une traite. Voilà.
Effectivement, il y a ces formats des petites histoires à l'intérieur d'un volume. Est-ce que vous avez pensé, avant la publication, de les publier plus tôt un épisode ou pas?
Non, moi, je n'ai pas pensé à la publication du tout au départ. Mais je me suis dit que ça se ferait avec l'employé du mois parce que c'est un peu mon... l'éditeur de mon cœur, on va dire. Mais c'est parce que c'est mes potes depuis super longtemps, qu'on a un peu la même vision des choses. Et bon, faut savoir qu'à l'employé du mois, c'est pas une maison d'édition comme on l'entend. Enfin, je sais pas si les gens qui écoutent connaissent, mais c'est un éditeur qui est monté par un petit collectif d'auteurs. Et il y a personne qui est salarié. C'est vraiment une toute petite économie. C'est quelque chose de collectif, coopératif. Donc voilà, c'est pas comme faire un bouquin chez un gros éditeur, quoi.
C'est un peu comme les mêmes types de projets qu'Elisa Mandel est en train de monter, d'essayer de monter.
Pas vraiment. Je sais pas vraiment, non, parce que là, d'après ce que j'ai compris chez Elisa Mandel, tout le monde vient. Enfin, je me trompe peut-être, mais les gens viennent avec leur projet et s'occupent de tout, de A à Z. Là, non, il y a quand même des choix éditoriaux, c'est quand même un petit collectif de 5-6 personnes qui décident des projets qu'ils vont publier et tout ça. Mais je me trompe peut-être, parce que j'ai pas très bien suivi le truc de... Comment ça s'appelle hein?
Elisa Mandel.
Oui,
je ne me rappelle pas les noms. Je ne me rappelle pas, j'ai oublié.
Ça va revenir. Mais enfin, ouais, voilà, non, c'est plus un petit éditeur fondé par des auteurs qui étaient à la base ensemble à l'école à l'ERG ou à Saint-Luc à Bruxelles, et qui ont continué. Il y en a qui sont devenus profs, il y en a qui sont devenus libraires, il y en a qui sont devenus auteurs, mais c'est toujours ce petit collectif qui est le comité éditorial, on va dire.
Et donc, pour revenir à Michel, donc, comme vous avez dit, vous avez voulu parler un peu de comment est compliqué de vivre comme auteur de bande dessinée, mais, et ne parlons pas d'un auteur de bande dessinée, mais donc, en parlant de quelqu'un qui essaie de faire donc de faire des reportages sonores et tout ça. Et pourquoi vous avez choisi les sons?
Parce
pourquoi
que...
Michel aime enregistrer des sons?
Pardon?
Pourquoi Michel aime enregistrer des sons?
Parce que c'est un truc... parce que la BD, c'est juste visuel, et la radio, c'est juste sonore. Et du coup, c'était le contraste, et d'essayer de mettre en image le son qu'il enregistre, c'est un peu marrant. Enfin, marrant, pas marrant, c'est un peu rigolo à faire, mais... et que j'écoute beaucoup la radio. C'est un truc que tous les dessinateurs passent leur journée à écouter des podcasts. Quoi, tu vois. C'est un peu notre le truc qui nous tient compagnie toute la journée. Quoi.
Donc vous écoutez des podcasts pendant que vous dessinez, c'est ça?
Ouais. Ben, ouais. Si je dois écrire, enfin réfléchir à l'histoire et tout, il vaut mieux que ce soit dans le silence parce que écouter un truc ça me distrait. Mais si je dois, enfin écrire, j'écris pas vraiment, mais si je dois réfléchir à l'histoire, il vaut mieux que ce soit dans le silence. Mais quand je dessine, ouais, j'ai toujours quelque chose qui tourne.
Et donc tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes en train de préparer un quatrième volume de Michel. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette suite? C'est encore trop tôt.
Non, je peux dire que il s'est mis en couple et il est parti vivre à la campagne. Et que là, les ennuis sont pas terminés. C'est les trois premiers étaient très urbains, on va dire. Et puis, spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, à la fin du troisième, ils en ont un peu marre et ils se barrent à la campagne. Et parce qu'ils voient plus le, parce que ils sont un peu, ils arrivent au bout un peu du schéma de travailler pour payer un loyer, pour pouvoir plus avoir assez d'argent, donc il faut toujours travailler pour courir après l'argent pour payer un loyer qu'on n'a pas assez d'argent pour payer, donc ils se barrent à la campagne. Et puis là, ben dans le prochain, ils seront à la campagne, mais c'est un autre type de galère qui va arriver.
Merci Père Morel. J'ai encore deux questions qui ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai marqué à côté et j'ai oublié de vous les poser tout à l'heure. Donc, vous avez parlé donc de comment vous avez commencé la BD et tout ça. Est-ce que vous avez eu des auteurs qui vous ont... Bon, j'imagine beaucoup, mais il y en a qui, pour vous, ils ont représenté vraiment quelque chose dans votre histoire, dans votre parcours de vie?
Ouais, alors... Quand j'étais tout jeune, je lisais des trucs genre Spirou, tout ça, et après, à partir du lycée, et fin du lycée, bah, j'ai, comme tout le monde, parce que c'était entre 95 et... Ouais, j'ai eu le bac en 95, donc c'est 2-3 années après, là, j'ai découvert tous les trucs de l'association, les trucs... Donc, à la base, il y avait... J'ai découvert Matt Conture et Menu, Jean-Christophe Menu, ces deux-là surtout, c'était vraiment la claque. Et après, il y a les trucs aussi qui m'ont beaucoup marqué, c'est les trois Canadiens qui sont Seth, Chester Brown et Joe Matt. À l'époque où c'est sorti, c'était vraiment... On sentait qu'il y avait une connivence entre eux, qu'ils avaient des trucs assez différents, mais une façon de raconter très américaine, on va dire, très factuelle, comme ça. Ça m'a beaucoup marqué aussi.
Merci. Après, j'ai une dernière question. Donc, tout à l'heure, vous avez, en parlant du dispositif de résidence auquel vous avez participé, Vagabondage 932, vous avez aussi parlé d'une revue publié dans ces cadres, qui s'appelle Les Voltigeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette revue, parce que je ne la connaissais pas?
Alors, c'est un journal format tabloïd sur papier journal qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du quartier, là-bas, de la cité et alentour, et qui est aussi en vente sur les festivals ou peut-être sur le site des Requins, je ne sais pas, ou sur le site de la compagnie Ouidir ou de la résidence Vagabondage 932. Et il y a eu trois ou quatre numéros, je ne me rappelle plus. Donc, c'est chaque fois des trucs soit des articles, soit des textes, soit des dessins sur le quartier. Et il y a eu aussi un espèce de voltigeur junior qui a des pages insérées au milieu qui sont faites par les gamins de l'école du quartier. Donc voilà, ça coûte 3 euros, je crois. Et ça se commande facilement.
Bon, ça a l'air génial. Merci beaucoup, Pierre Morel, d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Notre deuxième morceau de la soirée, Immensità, de l'artiste Andrea Slazzo di Simone. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité BD. Ce soir, on vous parlera de Le bord du gouffre, de Noah Van Siver, publié par l'employé du mois en août 2020, Au bois, de Charline Colette, paru chez les Fourmis Rouges en octobre 2020, et nous terminerons avec une chronique d'horreur sur Flippette et Vénère, de Lucrèce Andrea, publié par les éditions Delcourt en février 2020. On commence avec Les bords du gouffre. Michel, on t'écoute.
Alors oui, je vais vous parler aujourd'hui de Noah Van Siver. Né en 84, cette figure montante de la BD alternative américaine vient d'être traduite en français pour cet album Le bord du gouffre. Donc ce trentenaire qui ressemble, je pense, malgré lui, à un quinquagénaire, a commencé en 2006 par publier un auto-fanzine d'une quarantaine de pages qui s'appelait Blamo, vendu alors sous manteau 1$, dont vous pouvez trouver quelques pages désormais en anglais sur le site de Kilgore Books and Comics, qui a depuis repris la publication de ces fanzines. Alors maintenant, ça coûte 7-8$. C'est dans le plus pur style d'humour grinçant, absurde, noir de la BD alternative des années 80-90 que Noah Vansiver, affectionne particulièrement. Il avait aussi dessiné un strip appelé 4 questions dans une revue de Denver qui s'appelle Westworld, qui a disparu je pense, et pareil vous pouvez trouver quelques extraits sur le net. Mais surtout ce qu'il a lancé, c'est une biographie de la jeunesse de Abraham Lincoln en 2012, The Hypo, The Melancholic Young Lincoln, alors que pour l'instant vous ne pouvez pas trouver en français je pense. Dans un autre style, il a publié une trilogie Fante Bukowski, qui est aussi éditée maintenant et en français par l'employé du mois. Donc c'est une fiction qui met en scène un écrivain en herbe, en recherche de reconnaissance. Bref, un personnage qui a quelques aspirations communes avec l'auteur, son propre aveu. Il s'est ensuite lancé dans une autobiographie intitulée « Mon aventure torride », que vous avez peut-être vu dans les librairies, dans les gondoles des librairies, où il décrit le temps dilaté de son adolescence à Phoenix avec ses potes skateurs, la petite frime inhérente à ce milieu, les déceptions, les humiliations. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du bord du gouffre, qui donc vient juste de sortir, mais qui était sorti avant aux États-Unis en 2015, avec le titre Saint Call. Alors sa traduction en français a été assurée par Thomas Kuykens. Le bord du gouffre, c'est 110 pages. D'une BD avec un graphisme vraiment puissant qui accompagne parfaitement l'histoire que je vais essayer de ne pas vous raconter dans le détail pour éviter d'en dévoiler le dénouement que j'ai adoré, mais je pense qu'on peut ne pas être d'accord là-dessus. Alors j'ai plutôt tenté de vous retranscrire la très bonne correspondance entre le style graphique et l'atmosphère de la BD. Le bord du gouffre, c'est l'histoire donc de Joe, un trentenaire devenu père depuis peu, qui pour subvenir aux besoins de sa famille doit bosser dans une pizzeria. Alors c'est pas le boulot de ses rêves, loin de là, c'est fatigant, il doit faire des heures sup, ça n'intéresse pas, mais ce qui compte c'est de faire, comme on dit en anglais, de la monnaie, hein, to make good money, et il espère bien sûr une promotion, et dans ce boulot, les relations avec les collègues sont en demi-teinte, parce que Joe, c'est un gars sympa, mais il déconne un peu parfois. Côté famille, c'est aussi un peu compliqué, sa compagne ne travaille plus parce qu'elle s'occupe de l'enfant, mais lui aussi d'ailleurs, il s'en occupe un peu, et ça provoque un peu de tension. Alors ces tensions vont d'ailleurs augmenter quand Joe apprend que sa belle-mère, qu'il n'aime pas trop, et qui est un personnage effectivement acide à la vie des solus, eh bien va débarquer à la maison. Alors dans le fond, Joe a la tête dans le guidon, il n'a pas beaucoup de recul sur lui-même, sur sa situation, et tombe dans tous les pièges tendus au mec qui partage sa trajectoire sociale. Une envie d'alcool, voire d'alcoolisme, une envie de s'éclater avec des drogues, une certaine frustration sexuelle qui va évidemment mal gérer, et j'en passe. Donc Noah Vansiver a fait le choix de planches en noir et blanc très travaillées et très détaillées. Son style de dessin est certes relâché, mais aussi très expressif, et donc assez peu réaliste. Donc dans la droite ligne du style qu'il affectionne, dont je parlais tout à l'heure, hein, ce style un peu alternatif des années 70-80, alors l'expressivité apparaît sur plusieurs plans. Les visages, sans être caricaturaux, sont favorables à faire fonctionner nos capacités naturelles en morphopsychologie. Par exemple, Joe a un bouc, des boucles d'oreilles, une touffe de poils entre les deux sourcils, et quasiment monosourcils, et ce qui lui donne un style de Dexter. La mère, qui doit avoir entre 50 et 60 ans, est assez maigre, elle a des rides un peu sèches, et ça fait d'elle un personnage tendu, sûrement provocateur de tension. Alors on pourrait grainer comme ça toute la galerie de personnages qui sont haut en couleur. Bon, il y en a d'autres qui sont plus neutres aussi. Ensuite de ça, il faut donc compter sur l'atmosphère plombante, qui bénéficie beaucoup du décor. Donc c'est un monde dans lequel il pleut assez souvent, les gens fument, les joints produisent des volutes de fumée quasi psychédéliques dans certains cas. Ensuite, vous avez les arrière-plans, qui sont blindés de détails, qui permettent de se sentir immergé dans une ville post-industrielle sous la pluie. On y voit des marques commerciales un peu partout, tous les produits et les cartons sont visibles dans les magasins, les fissures sur les murs sont aussi en arrière-plan, comme ça, avec des conteneurs de poubelles dans les rues. Donc on a donc un style et une mise en scène graphique qui renforce vraiment cette approche psychosociologique de l'histoire. J'ai trouvé les rapports entre les personnages très crédibles et bien construits. Joe fait des conneries et on comprend pourquoi et comment. Il ne faut absolument pas craindre des grosses ficelles et une histoire misérabiliste. On est très loin de ça. Il y a bien sûr ce fond social qu'on pourrait politiser facilement, mais finalement, on reste sur une histoire avec un déroulé, une tension, presque une intrigue et un dénouement. J'ajoute aussi quand même que tout n'est pas plombant, puisqu'il y a des passages comiques qui sont vraiment bien sentis. En résumé, je vous conseille fortement la lecture de l'album Le bord du gouffre de Noah Vansiver et de découvrir l'univers de cet auteur.
Merci Michel pour cette chronique. Et on passe maintenant à la BD de Charline Colette, Au bois, paru chez les Fourmis Rouges en octobre 2020. On commence avec la lecture d'un petit extrait. Écoutez.
Une course à la frontale. Je commençais à courir en forêt il y a 10 ans. Avant, je m'entraînais sur la route. Mais la route, c'est trop droit. T'as pas d'objectif à part le chrono et ça fait mal aux pieds. Quand t'es dans la forêt, t'oublies le chrono. C'est plus seulement courir, c'est courir et découvrir un montant. Ce que je préfère, c'est partir tout seul le soir, quand il pleut, quand il y a de l'orage. Et surtout quand il neige la nuit. Je mets ma frontale et je pars. Dans la forêt, vers chez moi, l'hiver, il y a une bonne vingtaine de centimètres de neige. Sur cette neige, la lumière de ta frontale donne une ambiance mystérieuse. Les mouvements de tes pas font crac, crac, crac. C'est tout saupoudré. Un peu les branches alourdies, la neige glisse et les branches se redressent. Tu avances lentement. La couche de neige fait comme un cocon autour de toi, comme si tu courais dans le coton. Et puis parfois, tu vois des flashs blancs. Ce sont des yeux d'animaux. C'est très furtif. Il n'y a pas un bruit. De temps en temps, un morceau de glaçon tombe d'une branche. Ça fait zlurp et tout se saute. Tu arrives sur une crête et là tu vois les lumières du village en contrebas. Tu sors 2 heures, t'es à 2 pas de chez toi et t'as l'impression d'être parti à l'autre bout du monde. Chaque fois que je vais courir, je découvre des choses. Mais si demain tu me demandes de te montrer un être ou une frêne, il y a des chances que je te montre un chêne. Moi je crois qu'il n'y a pas besoin de connaître le nom de tous les champignons, de toutes les fleurs, de tous les arbres pour adorer être en forêt. Je viens de vous lire un extrait de l'album « Au bois » de Charline Colette, publié en octobre 2020 par la maison d'édition Les Fourmis Rouges. Nous venons d'un bois et nous rêvons toujours de retourner dans un bois. J'aimais dire, quand j'étais petite, que j'habitais dans un bois. C'était un bois un peu urbain, à 10 km de la ville, mais c'était effectivement un bois. Je suis convaincue que rien n'est mieux qu'un bois pour développer l'imaginaire d'un enfant. Les bois, c'est les lieux du loup, mais aussi le royaume des lutins. Les bois et les contes vont ensemble. Un bois peut être sombre, mais aussi tapissé de fleurs. Le bois, la forêt, sont depuis toujours des lieux fascinants et qui font peur aux êtres humains. Charline Colette, dans cet album, Beau et magique, explore ces lieux à travers 12 récits, avec des chasseurs sans fusil, des cabanes éphémères, des coureurs aventureux, des grottes disparues et des lynx sauvages. Le thème du bois est décliné selon les 4 saisons à travers des récits que Charline a racontés dans son entourage avec l'aide précieuse de Myriam qui a tout enregistré avec son micro. Ces anecdotes sont très disparates. C'est hyper intéressant de voir comment plusieurs imaginaires se sont plongés dans cette thématique. La fiction et la réalité coexistent dans cet album qui a le mérite de nous reporter un monde enfantin et rassurant. Cette douceur, comme celle du feu dans un cheminée en plein hiver, est déjà inscrite dans les dessins, dans les traits du dessin et les couleurs choisies par l'autrice Charline Colette. C'est tellement beau qu'on rêve presque de pouvoir rentrer dans cet album. Déjà quand on voit la couverture, on est tout de suite amoureux de cet album. L'écriture est aussi très poétique, elle va à l'essentiel. C'est une BD adaptée aux enfants mais aussi aux adultes. Ce qui compte ici n'est pas l'âge, mais l'amour pour la forêt.
Et ce soir, on termine en beauté avec une nouvelle chronique sur la bande dessinée féministe d'Aurore. Ce soir, Aurore va nous parler de Flipette et Vénère, publié par les éditions Delcourt en février 2020.
À travers Flipette et Vénère, Lucrèce André adresse le portrait d'une jeunesse qui cherche à trouver une juste place dans la pluralité des combats, le sentiment individuel d'impuissance et l'écho fracassant des actualités internationales. Un roman graphique aux couleurs aussi vives et acidulées que les thématiques sont sombres et stratifiées. En observant la couverture du livre, déjà, on est marqué par l'aspect duel de l'illustration. Un visage songeur et un peu triste sur le devant, des traits chargés de revendications au verso. Voici esquissés Clara et Axel, aussi surnommés Flipette et Vénère, deux sœurs au tempérament et aux motivations totalement opposées, puisque l'une préfère se préserver en se bouchant les oreilles, tandis que l'autre veut se battre à main nue contre l'injustice. Évidemment, ça ne va pas être aussi simple, et l'aspect initialement binaire de ces deux personnalités se brouille petit à petit. Clara est en plein questionnement sur son travail artistique, sur le sens qu'elle veut donner aux photos qu'elle produit et sur la place de l'art dans la société. Un peu à la manière des superpositions opérées par les vieux appareils argentiques en lomographie, un accident va la forcer à stopper pour un temps sa démarche d'introspection afin de se plonger dans une autre réalité. L'accident à l'impromptu qui permet la superposition, c'est un billet de train pour Paris, le 18e, et un banal accrochage en scooter pour sa petite sœur Axel. Une sœur bulldozer qui, malgré une jambe cassée, ne souhaite surtout rien changer de son quotidien fait de manifs, de militantisme, de soutien aux réfugiés et de soirées dans les squats. Le lien sororal, qui semble sans cesse prêt à se rompre, est tendu des colères de l'une et de l'excès de politesse de l'autre. Graphiquement, le passage de la netteté au flou ou la confrontation visuelle entre différents aplats colorés souligne la porosité et le doute qui s'immiscent entre les mondes de Flipette et de Vénère. Les communautés dans lesquelles gravitent les deux sœurs sont dépeintes avec complexité, ne passant pas sous silence les oppressions que certains des membres reproduisent, en totale incohérence avec la démarche de changement sociétal dans laquelle ils s'inscrivent. Ainsi, des nombreux propos sexistes et homophobes, tenus par certains militants aux postures très virilistes, finissent par faire sortir de ses gonds la trop sage Flipette. Si Lucrèce Andrea a l'intelligence de ne pas nous indiquer un choix entre les visions des deux sœurs, qui sont en fait deux facettes entre lesquelles elle reconnaît elle-même osciller, on peut regretter que les violences à l'égard des femmes, retranscrites dans cette BD, ne soient pas davantage problématisées. Au final, ces violences sexistes sont décrites avec les mots des agresseurs, vus comme des dragueurs un peu lourds mais au rôle trop nécessaire pour que le reste de la communauté s'interpose. Ce que nous montre Lucrèce Andrea, c'est une réalité où il est dur de trouver sa place quand on ne correspond pas exactement à la posture attendue, ou quand on se trouve à l'intersection de plusieurs oppressions. Ce sont les prémices, les exagérations et les aveuglements parfois quand on entre très jeune en militantisme. Au final, Flipette et Vénère sonnent comme une ode à l'imperfection et à la possibilité de sans cesse se remettre en question. Ce que j'aime vraiment ici, c'est que c'est un réseau qui lie des gens et qui crée des situations. Des instants se déclenchent, des moments palpitants, des petits miracles. Toutes les journées sont différentes. Le taf est jamais le même, c'est très concret. Et c'est ça qui donne naissance à l'exubérance. Ça déborde de partout, mais ça marche. C'est la poésie. À l'extérieur, le monde est chiant et moche. Là, il y a des rapports directs, des gens volontaires. Et même quand ça échoue, parce que des fois ça échoue lamentablement, c'est les tentatives qui comptent. Le bénévolat, c'est se réapproprier son temps. Le rapport temps-production n'est plus un rapport d'assujettissement. C'est fondamental, la maîtrise de son temps. On nous dit, le temps, c'est de l'argent, mais c'est de la connerie. Il n'y a que le temps qui compte.
Merci Aurore pour cette chronique. Nous, avec Stripsismique, on vous donne rendez-vous dans un mois. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité d'Aurore Kroll et Michel Carton. À très bientôt sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.